le magazine des Nations Unies.
Bienvenue à ces magazines de Nations Unies. Au sommaire de ces magazines, Ebola fait de morts, mais aussi laisse des orphelins et de nombreux enfants non accompagnés. Leur nombre a plus que doublé depuis avril dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à cause de cette épidémie. Une alerte de l'UNICEF, l'agence onisienne et ses partenaires s'activent alors pour venir en aide à ces enfants. Les détails dans un instant. Comment lutter efficacement contre les violences basées sur le genre en RDC? Le Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires se sont penchés sur la question au cours de l'atelier de bilan de mi-parcours de l'appel à l'aide organisé cette semaine à Kinshasa. Mettre un terme au conflit foncier dans l'est de la RDC, c'est l'objectif d'un plan d'action mis en place par le gouvernement en collaboration avec le Royaume des Pays-Bas, ONU Habitat et MONUSCO, conçu à l'issue d'une conférence organisée à Bukavu en juin 2019. Ce plan a été présenté aux partenaires du secteur foncier à Kinshasa, c'était le jeudi 15 août. Enfin, une tentative d'enlèvement d'un fermier à Lubari qui échoue à Fizi, au sud Kivu, grâce à l'action du comité local d'alerte de la MONUSCO et à la suite d'une interaction avec l'armée congolaise, quelques assaillants ont été arrêtés. Dans cette édition, un dossier sur l'alerte précoce, un des mécanismes mis en place par la mission onusienne dans cette région. Ce sont là les grands titres de ces magazines. Merci de nous accueillir chez vous.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour. 6 résultats obtenus dans les différents domaines d'intervention, c'est ce qu'il faut retenir de l'atelier de bilan de mi-parcours de la feuille de route de l'appel à l'action contre les violences basées sur le genre. Atelier organisé du 14 au 15 août à Kinshasa par le Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP en sigle, et les ministères du genre en collaboration avec la coopération canadienne et l'appui de la direction de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire de l'Union européenne, ECO en sigle. Les participants à cette rencontre ont pris l'engagement de mutualiser leurs actions en vue de lutter efficacement contre les violences sexuelles basées sur le genre en RDC. Jean-Pierre Elali Coco pour le reportage.
À la séance de clôture des travaux, les représentants de l'UNFPI a mis l'accent sur l'engagement et le devoir de redevabilité de tous les acteurs intervenant dans la feuille de route de l'appel à l'action pour la protection contre les violences basées sur le genre, constituant ainsi les comités des champions. Le docteur Senen Houton, en tant que coordonnateur du comité, appelle à la mise en commun des actions à mener.
Nous ne pouvons pas avoir les résultats que nous pensons à travers l'appel à l'action si nous ne bâtissons pas avec les acteurs locaux, avec les associations de femmes. Et c'est pourquoi moi je voudrais prendre l'engagement au nom de UNFPA de faire et continuer ce plaidoyer avec tous mes collègues du système des Nations Unies pour que nous bâtissons sur les organisations locales et sur les organisations de femmes dans cette lutte.
Pour sa part, le coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies a exprimé sa détermination de faire de la lutte contre les violences sexuelles et l'autonomisation des femmes une des priorités de l'action humanitaire des Nations Unies en RDC. David McLachlan Carr.
Et moi, dans l'avenir, je vais renforcer le travail de protection des femmes et des filles en mobilisant l'équipe humanitaire pays sur cette question. Pour ce faire, je vais recruter une personne ressource spécialisée, c'est une PROCAP, dans mon cabinet, et j'espère d'avoir cette avant la fin de cette année.
Enfin, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safou, a réaffirmé l'engagement du gouvernement et son rôle de leadership dans ce secteur, tout en comptant sur le soutien des partenaires.
Le gouvernement a des responsabilités par rapport à tout cela, mais l'action des partenaires, l'appui que nous obtenons des partenaires n'est pas à négliger.
Cet atelier a eu le mérite d'avoir mis d'accord tous les acteurs sur l'engagement des uns et des autres à travailler ensemble pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre.
Senen Houton, représentant de FNUAP en RDC, est l'invité de notre magazine. Le nombre d'enfants orphelins ou non accompagnés en raison de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a plus que doublé depuis avril dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est ce qu'affirme l'UNICEF dans un communiqué. D'après cette agence onusienne, il y a besoin de soins spécialisés pour des enfants, d'où cette mobilisation de l'UNICEF et ses partenaires à cet effet. Plus de détails dans ces condensés de Jean-Pierre Elali Coco.
Dans ces communiqués, l'UNICEF et ses partenaires affirment avoir enregistré 1380 orphelins ayant perdu leurs parents à cause d'Ebola depuis le début de l'épidémie. La même source précise qu'au cours de la même période, 2469 enfants ont été séparés de leurs parents ou de leurs tuteurs. Cette épidémie a été particulièrement dévastatrice pour les enfants, souligne Pierre Ferry, responsable des programmes de protection de l'enfance de l'UNICEF en RDC. Devant cette situation, l'UNICEF, en collaboration avec ses partenaires, travaille pour identifier rapidement les enfants affectés et apporter un soutien adapté à leurs besoins physiques, psychologiques et sociaux. Ainsi, l'UNICEF a déjà formé 906 assistants psychosociaux et psychologues qui fournissent une assistance individualisée aux orphelins et aux enfants non accompagnés. Ce n'est pas tout. L'UNICEF gère également 3 crèches à côté des centres de traitement d'Ebola dans les foyers de l'épidémie. Ces crèches sont animées par des survivants d'Ebola immunisés contre la maladie. Ils s'occupent des nourrissons et des très jeunes enfants en attendant la fin des traitements de leurs parents ou tuteurs.
Les conflits fonciers font légion dans l'est de la République démocratique du Congo. Un plan d'action et des recommandations pour le résoudre ont été présentés jeudi aux partenaires du secteur foncier. C'était au cours d'un atelier de restitution de la conférence sur les conflits fonciers. Conférence qui s'était tenue à Bukavu, au sud Kivu, du 17 au 20 juin dernier, à l'initiative du gouvernement et en partenariat avec l'ambassade de Pays-Bas, ONU Habitat et la MONUSCO. Les détails avec vous, Honoré Misenga Kalala.
Le plan proposé pour résoudre les conflits fonciers dans l'est de la RD Congo s'articule autour de 4 axes. Le premier axe porte sur la sécurité foncière pour tous dans les milieux urbains et ruraux. Le deuxième porte sur comment éviter que la mobilisation communautaire sur le foncier ne débouche sur des conflits violents. Le troisième axe évoque la gestion des conflits liés au mouvement des populations déplacés et retournés, et le dernier axe, lui, concerne la sauvegarde et la restauration des droits fonciers locaux sur d'anciennes et de nouvelles concessions de terres. 250 personnes avaient participé à la conférence de Bukavu qui a proposé ce plan. Les délégués des pouvoirs publics à tous les niveaux, les autorités coutumières, les bailleurs de fonds, les représentants de la société civile et du secteur privé étaient parmi les participants. Ils ont constaté que les conflits fonciers constituaient un des facteurs clés à l'origine de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo.
Autre nouvelle, une trentaine de cadres de la Direction générale de migration, DGM en sigle, ont suivi pendant 5 jours, du 13 au 17 août à Kinshasa, une formation de formateurs dans le cadre de la coopération avec la police de la MONUSCO, UNPOL en sigle. À cette occasion, le général Daher Weiss, coordonnateur de la réforme de la police à l'UNPOL, a salué le professionnalisme du personnel de la DGM dans sa prestation. Les propos du général Weiss ont été recueilli par Honoré Misenga Kalala.
Je voudrais avant tout propos me féliciter du comportement exemplaire dont fait preuve le personnel de migration dans les aéroports et dans les frontières. Ce comportement professionnel de votre personnel provient d'une large part de la qualité de la prestation de votre personnel, mais également de la vision de la hiérarchie de la DGM, à donner la meilleure image que possible du pays. Il convient ici de le reconnaître et de saluer à juste titre les acteurs que vous êtes. La prépondérance du rôle de la DGM n'est plus à démontrer. Votre volonté de tisser des relations de partenaires avec la composante police de la MONUSCO, dans le cadre du renforcement des capacités de votre personnel, témoigne la volonté de votre hiérarchie à faire sienne des prestations ou normes internationales.
Le général Weiss a représenté à cette cérémonie le commandant de l'UNPOL, le général Awale.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
À la veille de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année, Mark Nguyen s'intéresse au bilan mi-parcours du projet P4P, projet d'appui aux chaînes de valeur de petits producteurs et programme de résilience. Un projet humanitaire quinquennal de 2018 jusqu'en 2022, initié conjointement par le PAM et la FAO. Quels sont les résultats obtenus sur le terrain dans les 6 provinces ciblées par le projet? Quels sont les défis à l'horizon 2021 et aussi le pesanteur? Madame Valériane Ndena, chargée des programmes au PAM RDC, aborde toutes ces questions. Elle est interrogée ici par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Valériane Ndena, bonjour.
Bonjour.
Nous allons aujourd'hui nous intéresser au bilan à mi-parcours du projet quinquennal d'appui aux chaînes de valeur de petits producteurs et programmes de résilience. Nous savons que ce projet a été initié et mis en œuvre conjointement par la FAO et les PAM.
Oui.
Alors, madame, très brièvement, à quoi consistait concrètement ce projet?
Peut-être aussi très brièvement remonter au fait qu'en RDC, on a plus de 75% de la population qui vit du secteur agricole uniquement. Donc, c'est comme ça que le PAM et la FAO ont mis sur pied ce programme de résilience, de renforcement des moyens d'existence des communautés, en passant par l'agriculture. Donc, pour avoir une communauté résiliente aux différents chocs auxquels ils font face, que ce soit notre crise qui a été très longue sur la question de sécurité, les guerres, les questions de la pauvreté, l'un des grands secteur porteur, c'était l'agriculture. Donc, le grand pilier de ce programme, c'est donc le programme agricole. Nous avons donc 3 piliers dans ce programme-là, donc l'agriculture, la diversification des revenus et évidemment qui passe avec l'autonomisation de la femme et donc tout ce qui est transfert de connaissances et de compétences à plusieurs niveaux, que ce soit avec les services étatiques qu'avec les communautés directement. Donc,
au moins 6 provinces ont été concernées par ces programmes, dont le Nord Kivu et le Sud Kivu, bien entendu l'Équateur, le Tanganyika. Alors, en 2019, au moins 73 500 ménages ont été visés par ce projet, dans lesquels vous ne mentionnez pas les montants. Et c'est un tabou, madame?
Oh, pas du tout. Dans toute l'RDC, le programme de résilience, je dirais WFP, PAM, FAO, est financé à hauteur de 60 millions de dollars, qui s'étale de l'année 2017 à l'année 2020. Et donc, en même temps, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un tabou, nous allons probablement avoir des financements additionnels qui vont s'étaler jusqu'à l'année 2023 et qui s'élèveraient autour de 50 millions à 100 millions additionnels. Uniquement sur l'année 2019, nous sommes en train d'investir près de 10 millions de dollars répartis dans plusieurs provinces de l'RDC, dont le Nord, le Sud Kivu, le Tanganyika, le Nord et le Sud Bangui.
Et quels sont les résultats en termes de réalisation sur le terrain? Vous pouvez aussi parler des pesanteurs.
C'est vrai qu'en termes de résultats, on pourrait prendre beaucoup de temps parce qu'on en a eu beaucoup.
L'essentiel.
Oui. Allez, l'une des composantes qui nous tient beaucoup à cœur, c'est vraiment le rôle que joue la femme dans le secteur agricole, qui est toujours et dans beaucoup des cas très minimisé jusqu'ici. Et cette femme qui est une actrice importante dans le secteur agricole, mais qui n'est pas forcément celle qui a la voix la plus porteuse pour son secteur. Donc c'est de vraiment autonomiser cette femme tout en assurant un minimum de capacitation, c'est-à-dire il y a tout un programme d'alphabétisation fonctionnelle accompagné des activités génératrices de revenus qui leur permet non seulement de diversifier leurs revenus, on peut le voir comme ça pour le ménage, mais aussi ça leur donne un pouvoir dans la communauté de base pour pouvoir dire je peux aussi représenter, j'ai une voix pour représenter ma communauté. Ça c'est une des choses qui personnellement, au-delà du programme qui me passionne en tant que tête, ça c'est un témoignage que je partage, de voir ces femmes-là qui jouent de plus en plus un rôle, que ce soit dans le ménage, mais aussi dans les activités économiques et sociales de leur communauté.
Oui, descendons sur le terrain, madame, notamment à Kabalo, où vous avez certaines activités aussi, à Bikoro, et cette fois-ci c'est dans la province de l'Équateur. Quels sont les résultats concrets auxquels vous êtes parvenus et quelles sont bien sûr les difficultés que les FAO et vous-même, PAM, vous rencontrez sur le terrain?
À l'Équateur, Bikoro, ça fait partie de la phase pilote du programme, en fait, et qu'à ce stade, nous ne sommes pas présents à Bikoro, mais nous sommes présents dans le nord et sud de Bangui, comme je le disais. Pour aller prendre Kabalo comme exemple, je vais peut-être commencer par les pesanteurs et après montrer les résultats, d'accord? Sur tout ce qui est accès à la semence, en fait, on sait que ce sont des zones très enclavées, donc les communautés ont du mal à avoir accès aux semences de qualité, mais aussi, dans notre cas, les semences fortifiées. Un exemple de résultat qui me frappe directement, c'est à Kabalo, par exemple, les ménages ne consommaient pas le maïs, mais préféraient consommer le manioc parce que simplement la transformation était beaucoup plus facile à faire. Donc les femmes le pilaient, alors que le maïs, on a du mal à le piler. Donc tout le maïs qui était produit dans la région servait à la production de l'alcool.
eu.
Alors qu'avec tout le système qui a été mis en place dans le programme, on a réussi à démontrer que c'était beaucoup plus nutritif, évidemment, de consommer du maïs que du manioc. Mais en plus, on avait la capacité de la transformer, évidemment, quand on avait accès aux outils, même artisanaux, qui permettent de transformer ce maïs-là. Et aujourd'hui, dans cette région, on consomme le maïs. Donc, ce qui a eu un impact sur le niveau de la sécurité alimentaire, qui reste challenging, parce que c'est quand même, on parle d'une très grande communauté, mais qui a eu des résultats.
Mais madame, vous parlez de la transformation, mais ce qui est important aussi, c'est la commercialisation de ces produits.
Exactement.
Est-ce que le circuit entre l'endroit de production et les grands centres de consommation, est-ce que de ce côté-là aussi, vous avez réussi?
Comme je vous disais, c'est très passionnant comme programme. Donc, on a beaucoup de résultats dans tellement de domaines, comme on a parlé de la chaîne de valeur. Mais l'un des domaines dans lequel on se focalise également, c'est la commercialisation, donc toute la chaîne de commercialisation. Et donc, on assure toute la dotation en cap, en entrepôt, en aire de séchage, qui permettent d'assurer cette qualité en termes de transformation minimale, on va dire conservation déjà de la production, après pour pouvoir le lier au marché. Donc, dans le programme, il y a un volet important sur la réhabilitation des routes de desserte agricole, qui permet justement de lier les bassins de production aux zones de consommation directe. Ça a un impact direct sur l'assiette du ménage même, donc la sécurité alimentaire, la nutrition. Évidemment, ça facilite l'accès à tous les services sociaux de base qui ne sont pas gratuits dans notre pays.
Et vous n'avez pas parlé de l'expérience du cash?
Donc là, le volet sur la réhabilitation des routes de cette agricole se fait sur ce qu'on appelle le cash for work, ou bien donc le cash contre travail, où les communautés elles-mêmes sont non seulement impliquées dans la réhabilitation, mais aussi dans la maintenance de ces routes de desserte agricole. Et donc, en contrepartie, parce qu'il n'y a pas de gratuité, que ce n'est pas un programme humanitaire, donc c'est dans ce cadre-là qu'on a donc le cash qui est conditionné à un travail qui, en fait, à la fin de la journée, bénéficie aux mêmes communautés.
Oui, revenons au financement, 60 millions de dollars. Croyez-vous que les bailleurs de France sont vraiment satisfaits de la manière dont vous menez à ce projet et gérez les financements?
À la hauteur de la RDC et des besoins qu'il y a dans notre pays, si je prends que le secteur agricole comme modèle, 60 millions de dollars, permettez-moi de le dire, ce n'est pas assez. Je crois qu'il y a une très grande satisfaction aujourd'hui de toutes les parties prenantes, que ce soit des donateurs, mais encore plus les communautés avec lesquelles on travaille et les différents partenaires qui sont sur le terrain, du grand potentiel que représente ce programme, parce que c'est tout à fait lié au grand potentiel congolais dans l'agriculture. Et donc, si on veut faire un changement radical en RDC, c'est un des programmes prometteurs qui, justement, vont assurer ce changement.
Valériane Ndena, je vous remercie.
Merci à vous. Bonne journée.
C'est la page de nouvelles en bref. D'abord, cette information du Maniema, une journée de réflexion sur le leadership transformationnel de la femme, a été organisée le 10 août 2019 à Kindu, chef-lieu de la province. C'était à l'initiative de l'ONG locale de droits de l'homme, la Ligue de jeunes pour la défense des droits de l'homme, LJDH en sigle, avec la facilitation de la MONUSCO. La chef du sous-bureau de la mission à Kindu, Louise Barber, a appelé à cette occasion les femmes de la province du Maniema à s'approprier de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. D'autant plus que cette résolution, a-t-elle rappelé, encourage la participation de la femme dans la prise de décision dans les instances du pays et à tous les niveaux. Pour mauvaise gestion de fonds du projet dans les zones de santé de Bassankoussou, Ingende, Lukolela, Tondo, Mbandaka et Wangata, la Banque mondiale menace de suspendre son appui financier au projet de développement du secteur de la santé. Alors que des sanctions ont déjà été prises et des réformes opérées, la Banque mondiale constate que les choses ne changent pas, d'où sa menace de fermer et d'arrêter totalement son appui à ces projets. La société civile locale a réagi. Elle appelle l'institution financière internationale à reconsidérer sa décision. La société civile de l'Équateur appelle également les autorités congolaises à traduire les personnes concernées par la mauvaise gestion de fonds en justice. Enfin, procès des experts de l'ONU au Kasaï, 4 prévenus étaient devant la cour militaire à Kananga le mercredi 14 août dernier. Les 3 premiers, Chiputu Kabeya, Beya Paul et Mbui Kachavwa André, sont cités parmi ceux qui auraient décidé de la mort de 2 experts onusiens et le 4e, Mulumba Muteba Jaria, lui, affirme avoir plutôt vécu la scène comme observateur.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme annoncé, notre invité est le docteur Senen Houtoun, représentant de l'UNFPA en RDC. Son agence et le ministère du genre, enfants et familles ont organisé un atelier de mi-parcours de la feuille de route de l'appel à l'action contre les violences basées sur le genre. Les représentants de l'UNFPA parlent de résultats de la rencontre et de l'engagement en termes de rédévabilité des principaux partenaires dans cette lutte. Il s'entretient ici avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Houtoun, bonjour.
Bonjour.
Oui, nous sommes à la fin de cet atelier consacré à l'appel à l'action dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Alors, très brièvement, quels sont les résultats de l'appel à l'action qu'on peut enregistrer après cet atelier?
Il faut d'abord rappeler que l'appel à l'action, c'est une initiative pour augmenter la redevabilité de tous les acteurs par rapport à cette question de violence basée sur le genre. Et pour nous, au niveau du système des Nations Unies, c'est très important pour la centralité de la protection. C'est pour ça que en termes de résultats concrets, vous avez vu la participation du coordonnateur humanitaire, le coordonnateur du système des Nations Unies, qui était là pour donner un signal fort que cette centralité de la protection sera au niveau de toutes les agences, au niveau de tous les programmes que nous faisons. Cela en soi est déjà un résultat. Parce que cela va nous obliger, nous tous, au niveau du système des Nations Unies, à prendre en compte et à même avoir un indicateur pour s'assurer que nous essayons d'éliminer les violences faites aux femmes. Deuxièmement, et c'est très important, nous ne pouvons pas avoir de résultats si nous n'engageons pas les acteurs locaux. Et vous avez pu voir ici dans cette salle, plus de 50% des participations sont venues des organisations locales, des associations de femmes. Cela en soi est déjà un bon signe. Et ce que nous souhaiterons, c'est que progressivement, cette capacité pour pouvoir prévenir et prendre en charge les cas de violence faites aux femmes, que ce soit par des acteurs locaux. Mais troisièmement, et c'est aussi important, c'est amener un financement beaucoup plus important pour que la survivante de violence faites aux femmes soit prise en charge. Vous avez vu beaucoup de donateurs qui s'intéressent à cette thématique. Nous avons cette année le Canada qui est le porte-flambeau, mais nous avons aussi beaucoup de donateurs. Je voudrais ici signaler la Suède, la Belgique, l'Union Européenne, la Grande-Bretagne, la Hollande, beaucoup de pays, la Corée, qui de plus en plus mettent des financements à disposition pour pouvoir éradiquer les violences faites aux femmes.
Avant de parler même de défis, est-ce que nous pouvons savoir ce qui a été fait concrètement dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, ici en République démocratique du Congo, du moins au niveau de votre organisation, de votre agence?
Au niveau de notre agence, nous sommes l'organisation qui fédérons les énergies de tous les acteurs dans le domaine humanitaire. Nous dirigeons le sous-cluster basé sur le genre, de violences basées sur le genre. Et donc nous avons mis des outils, des guides à disposition de tous les acteurs pour pouvoir prendre en charge correctement cette thématique. Deuxièmement, et c'est très important, il y a une base de données. Nous ne pouvons pas intervenir si nous n'avons pas des données probantes. Le rapport que nous faisons, par exemple, chaque année, par le secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles en conflit, cette base de données nationale y contribue. Troisièmement, c'est pouvoir avoir une réponse holistique. Et cette réponse holistique se décline de plus en plus dans ce que nous appelons les One Stop Center, c'est-à-dire des centres intégrés multifonctionnels pour que la survivante puisse être prise en charge dans son entièreté. Pas seulement la prise en charge médicale ou psychosociale, mais aussi la prise en charge juridique, la résilience, la prise en charge économique de cette femme-là. Mmh. Et donc, de plus en plus, rien qu'avec UNFPA, le PNUD, nous sommes, sur financement du Canada, en train de mettre à disposition dans 5 provinces des centres de lutte multifonctionnels. Nous avons fait le plaidoyer avec la Banque mondiale et bientôt, nous aurons près de 8 autres centres multifonctionnels qui seront dans la République, avec pour objectif d'avoir dans chacune des 26 provinces de la République des centres intégrés de prise en charge multifonctionnelle.
Et ça, c'est dans votre intervention, M. Otton, vous avez parlé de l'engagement, mais aussi de la redevabilité. Et vous avez dit que vous allez prendre votre bâton de pèlerin. Et qu'est-ce que vous allez faire en prenant ces bâtons-là?
Le bâton de pèlerin, c'est pour faire deux choses. Premièrement, nous sommes convaincus qu'aucun acteur seul ne peut gérer ce problème. Cela voudrait dire qu'il faut que nous nous associons. C'est pourquoi je m'engage à faire le plaidoyer auprès des autres agences pour que de plus en plus nous fassions des projets conjoints. Sans des projets conjoints, nous ne pouvons pas avoir d'impact. Mais deuxièmement, je voudrais prendre mon bâton de pèlerin aussi pour qu'au niveau des autres agences, nous ayons cette redevabilité qui doit se traduire par la protection dans chacun des autres clusters. Par exemple, si nous parlons de cluster de nutrition, il faut que nous puissions prévenir les violences faites aux femmes le long de cette chaîne. Si nous parlons de la sécurité alimentaire, si nous parlons de la santé en général, bref, dans chacun de nos clusters, dans notre architecture humanitaire, c'est une entité transversale et c'est pourquoi nous supportons le bureau intégré pour que le coordonnateur résident du système des Nations Unies ait une ressource humaine qui sera placée dans son bureau, qui pourra alors assurer la redevabilité pour nous tous, membres du système des Nations Unies.
Monsieur Otton, je vous remercie et bon vent.
C'est moi qui vous remercie.
Je l'ai annoncé dans le sommaire, une tentative d'enlèvement d'infirmiers à Lubarika par des hommes armés non identifiés a échoué. Et c'est là grâce à l'alerte précoce d'un système mis en place depuis quelques années dans le territoire d'Ouvira et de Fizi. Un système qui fait ses preuves, mais qui mérite des améliorations pour plus d'efficacité, estime la population locale. Le magazine des Nations Unies revient sur ces dossiers signés Fiston Goma.
À Kiliba, à Runingu, Kigoma, Itara Luvungi, Lemera, la zone frontalière le long de la rivière Ruzizi, dont Mwaba et Ruzia, partout dans la plaine de la Ruzizi et le moyen plateau, les systèmes d'alerte précoce couvrent au total 50 villages. Le système est bien connu par les acteurs et les communautés, avec un total de 142 points focaux. Des femmes et des hommes s'engagent volontairement chaque jour à échanger des informations liées à la protection des civils. Explication du chef du sous-bureau de la MONUSCO Ouvira, Ganda Abdourahman.
Bon, l'alerte précoce d'abord que vous avez dit, c'est un dispositif qui permet d'être au courant très rapidement. Maintenant, une fois que l'alerte est donnée, le Congo est un pays souverain. Les Pakistanais ne se lèvent pas pour s'engager directement. Nous avons besoin de la requête du peuple congolais, notamment les FRDC. Et une fois que ces requêtes sont établies, ça se fait d'abord au haut niveau. Quand on nous donne le feu vert, nous travaillons conjointement avec les FRDC pour établir la sécurité là où cela est de besoin.
Parmi les cas illustratifs les plus récents, la société civile parle de la récente tentative d'enlèvement d'un fermier à Lubarika par des hommes armés non identifiés. L'opération a échoué grâce à la vigilance du comité local d'alerte de la MONUSCO qui a tout de suite informé l'armée. Celle-ci, arrivée sur le lieu, a capturé quelques assaillants. Témoignage d'un habitant de Lubarika.
J'avais donné l'information à la MONUSCO, son manuel, nous avons eu autre. Et puis nous avons écrit aussi quelque part dans le cahier. Oui, il y avait une intervention de la population et aussi la police.
D'autres témoignages à Katogota, Luvungi, Rubanga, Kiringi, Nyamutire et Sange confirment l'efficacité du système en cas d'embuscade, de vol de bétail et d'attaques ciblant les civils. Cependant, certains parmi les points focaux reconnaissent quelques faiblesses liées à la communication et la rapidité de l'intervention des forces de l'ordre et de la défense. Quand l'intervention arrive en retard, elle retrouve les victimes déjà dépouillées. Là, on n'en paie rien. Mais si nous faisons un effort pour l'intervention, les victimes sont sauvées. Nous demandons à la MONUSCO d'appuyer les agents de terrain pour qu'ils soient dotés des radios Motorola pour communiquer plus rapidement avec le président de la jeunesse ici à Kiringi. La MONUSCO est recommandée de revoir à la hausse le volume des crédits mensuels au vu de la charge d'appel reçue des points focaux. Mais en même temps, la mission onusienne étudie de nouvelles approches de transfert progressif de ces systèmes aux acteurs locaux de protection. Il faut dire que celle Oxfam Grande-Bretagne a tenté cette expérience à Bouguera et à Luvungi dans un projet qui a déjà pris fin. Le chef de la MONUSCO Ouvira, Ganda Abdourahman.
À ce que je sache, la MONUSCO a fait sa part. tous les points focaux avec lesquels nous sommes en train de travailler et qui méritent d'être dotés sont dotés.
D'Ouvira Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question Nations Unies.
Suivez maintenant cette question posée au chef de bureau de la MONUSCO, Beni Omar Aboud, ainsi que sa réponse en rapport avec la reprise des attaques de ADF contre la population. La question lui a été posée par Sekombi Katondolo.
Monsieur Omar Aboud, bonjour.
Bonjour.
À Beni, les populations sont excédées à cause des attaques répétées dont elles font l'objet. D'où ces différentes manifestations de colère. Quel est le message que vous souhaitez faire passer à ces populations? Notamment, quelle est la réponse que la MONUSCO va apporter pour mettre fin à ces attaques?
Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que nous sommes solidaires des populations qui vivent une situation intenable en raison de l'insécurité et de l'épidémie à virus Ebola. Depuis juillet, l'on enregistre presque chaque jour de nouvelles attaques avec son lot de malheurs. Et sincèrement, nous déplorons ces nouvelles victimes, ce qui est tout à fait inacceptable. Les populations de Beni, comme du reste de la RDC, ont le droit de vivre en paix et de pouvoir vaquer à leurs occupations sans peur ni contrainte. Et c'est la raison pour laquelle nous comprenons la frustration de la population et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider sur tous les fronts, pour protéger les populations civiles en collaboration avec les FRDC et la PNC, mais aussi celui d'Ebola avec le déploiement d'importants moyens pour accompagner les équipes de riposte à l'épidémie sur le terrain. Nous le savons, nous devons faire toujours plus pour mettre fin à cette situation qui déstabilise toute cette partie est de la RDC.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Pour l'agenda de ce jour, retenons que le 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire, le 23 août, journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. C'est la fin de ces magazines. Je suis Arlette Mbouyi qui se vessage. J'étais à la présentation avec l'appui technique de Jean-Noël Mokondo. Honoré Missenga Kalala était au reportage et à la réalisation. Jean-Pierre Elali Ikoko également au reportage et à la coordination. Le tout sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Merci une fois encore de votre attention et restez toujours à l'écoute de Radio Okapi, la radio de la paix. Rendez-vous le dimanche prochain avec votre magazine. Non.